Le titre le montre déjà. Tu ne suis pas un Dieu mort. Autrement dit, ton Dieu est vivant. Je suivais quelques images, quelques débats, surtout entre chrétiens et musulmans. Et ce que j'ai remarqué, et même les musulmans dans la rue où il y a des chrétiens qui vont pour les évangéliser, ce que j'ai remarqué, c'est que ils ont du mal à concevoir que Dieu soit en même temps le Créateur et qu'il soit capable de venir demeurer dans la vie de sa créature, des hommes qu'il a lui-même créés. Donc, ce qui fait que ils ont aussi du mal à accepter que Dieu est devenu chair, que le Seigneur Jésus, c'est la représentation parfaite de Dieu, c'est lui Dieu. Ils ont du mal à accepter cela. Donc, la question qu'ils posent très souvent, c'est si le Seigneur Jésus, si vous, chrétiens, vous prétendez qu'il est réellement mort, finalement, qui Dieu est mort? Qui règne en ce moment-là? Au moment où Dieu est mort? Donc, ils ont du mal à accepter la crucifixion. Ils ont du mal à accepter que Jésus a donné sa vie. Voilà pourquoi ils sont venus avec un scénario que Dieu a plutôt trompé les hommes, ceux qui ont cherché à crucifier Jésus. Donc, c'est une autre personne qui a pris la place du Seigneur Jésus, mais Dieu a fait de telle sorte que ça soit le visage du Seigneur. Mais qu'en réalité, c'est Judas. Il y en a qui disent c'est une autre personne. Alors, ils ne peuvent pas concevoir que le Seigneur a été crucifié pour tes péchés, pour mes péchés. Du coup, ils disent non, on ne peut pas accepter cela. Ils vont venir avec une autre théorie, pour dire que la Bible est corrompue. Ça a été transformé. Ça n'est pas vrai ce qui est écrit parce que au fur et à mesure, la Bible a été transformée. Donc c'est cela qu'il se console avec ça, avec cette théorie. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dieu est vivant. Le Seigneur Jésus lui-même a dit à son auditoire que il a dit plusieurs fois à ses disciples qu'il allait donner sa vie, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il a dit plusieurs fois. Donc, c'est pas quelque chose que les disciples sont venus avec pour dire non, il n'est pas mort, c'est juste une invention. Ce n'est pas quelque chose qui a été décidé par les hommes. C'est Dieu lui-même qui l'a décidé. Parce qu'il a vu la souffrance de l'homme. Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas venir vraiment devenir clean ou devenir parfait devant lui. L'homme ne pouvait pas se racheter lui-même. Parce que ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, l'homme n'a pas pu. L'homme a perdu cette alliance avec Dieu ou cette association où l'homme était en train de causer avec Dieu vis-à-vis. L'homme échangeait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais du moment où l'homme est tombé, on a perdu ce privilège d'échanger avec Dieu. Donc, le Seigneur dit dans Jean 10, versets 18 à 21, il dit, en effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. C'est cette partie que les hommes ne comprennent pas. Le Seigneur a dit, c'est pas parce que il a accepté qu'on puisse le crucifier qu'on va dire qu'il est victime. En effet, c'est lui-même, c'est un plan de Dieu. Il a exécuté ce plan de Dieu. Donc, il a donné sa vie. Sinon, il a dit à Pierre, ne crois-tu pas que je peux appeler des légions d'anges pour me défendre? Donc, le Seigneur, si vous voulez, personne ne pouvait le crucifier. Voilà pourquoi il a donné librement sa vie et il est revenu à la vie le troisième jour. Donc, c'est quand il a dit ça, il continue. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, c'est le Père qui a donné cet ordre. Pour racheter l'humanité, il faut que tu passes à la croix. Voilà pourquoi il a demandé à son Père dans le jardin de Gethsémané, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de racheter l'humanité? Mais à un moment donné, il s'est dit, OK, c'est ce que le Père a décidé, je vais me soumettre. Il a dit, c'est pas que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Donc, le Seigneur a donné librement sa vie. Je continue. Il y eut à nouveau division parmi le peuple à cause de ses paroles. Beaucoup disaient, il a un démon en lui. C'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres répliquaient, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Donc, ils ont vu les actes que le Seigneur posait et eux-mêmes, ils ont commencé à débattre. Parce qu'ils ont traité des démoniaques. Les autres disent non, 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 non. Ça, ce n'est pas un démoniaque. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Le Seigneur est mort et il est revenu à la vie volontairement. Lui-même, il a repris la vie. Il n'a pas cessé d'exister. C'est ça que ceux qui sont dans l'islam ne comprennent pas. Il n'a pas cessé d'exister. Oui, le corps a cessé de fonctionner, mais l'Esprit de Dieu qui était en lui, a continué à fonctionner. Donc le Seigneur n'est pas mort. D'ailleurs, la parole de Dieu dit clairement que quand on est en Christ, on ne fait pas face à la mort. La mort n'est juste qu'une transition. Donc, le problème, c'est que Jésus a exécuté le plan de Dieu. Et le fait de mourir à la croix, Dieu n'a pas cessé d'exister. Dieu n'a pas cessé d'exister. L'apôtre Paul dit clairement que la mort, c'est un gain. Donc, c'est une transition. C'est juste, le corps cesse de fonctionner, mais l'esprit continue à fonctionner. Donc, c'est ce que cette transition, nos frères qui sont dans l'islam ne comprennent pas. Que non seulement que Dieu puisse venir habiter dans un corps humain et que, après cela, que Dieu puisse encore donner sa vie, que Dieu puisse passer à la croix, ce n'est pas concevable dans leur tête. Donc, ce qui fait que ils sont en train de suivre le plus grand prophète, le dernier des prophètes, okay, qui est réellement mort. Et tous ceux qui suivent, que ce soit Bouddha ou ceux qui sont dans l'hindouisme, ceux qui sont dans les churches, comment on appelle, Seventh Day Adventists, tous ceux-là, ils suivent des leaders, ils suivent des figures religieuses qui sont déjà décédées. Mais quant à toi, le Seigneur te dit clairement que personne n'a pris sa vie. Il a donné et il a repris sa vie. Donc, ce qui fait que quand tu suis le Seigneur Jésus, tu sais exactement ce qui t'arrivera après la mort, où ce que tu iras après la mort. Mais non seulement ça. Ça, c'est pour, oui, ça, c'est quand la mort va arriver. Mais en dehors de ça, tu suis un Dieu qui est vivant, un Dieu qui peut connaître tes difficultés, un Dieu qui peut savoir exactement ce que tu traverses, parce que lui-même, il est passé par là. Ce n'est pas un Dieu qui est à l'écart, il est loin et tu ne peux même pas l'approcher. L'islam dit que Dieu est tellement loin, éloigné, que tu ne peux pas l'approcher. Alors que toi, tu as un Dieu qui est personnel. Il dit, tu me donnes ton corps, je vais venir habiter. Je vais t'indiquer le chemin à suivre. Un Dieu qui te parle, qui te répond. Un Dieu avec qui tu peux échanger. Un Dieu qui est intime. Un Dieu qui connaît tes hauts et tes bas. Un Dieu qui connaît ta personnalité. Un Dieu qui sait exactement ce que tu traverses. Donc, un Dieu comme ça. Un Dieu qui est vivant. Et quand tu le suis, ta vie ne peut que montrer des signes. Même quand tu traverses des moments difficiles, tu gardes la tête haute parce que tu sais que ton Dieu est vivant. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur vit. Tu ne suis pas un Dieu qui est absent. Un Dieu qui va se dire, oh, mais attends, je fais un voyage, je vais revenir et je vais m'occuper de tes affaires. Non. Un Dieu qui ne dort et qui ne sommeille. Un Dieu qui veille sur toi. Donc, c'est vraiment l'essence même de la vie chrétienne. Oui, ça tourne autour de la mort et de la résurrection du Seigneur. Voilà pourquoi les Juifs ont tout fait pour montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Ils ont corrompu des gens, ils ont corrompu des soldats pour dire, dites seulement que les disciples ont volé son corps, mais qu'il n'est pas ressuscité. Tous ceux des chefs religieux que j'avais cités auparavant, ils sont morts. Leur tombe existe. Leur tombe est là. Il y en a qui font des pèlerinages même sur leur tombe. Mais le Seigneur, le tombeau est resté vide. Et ce ne sont pas seulement des sources, ce n'est pas seulement la Bible qui dit que le Seigneur a été bel et bien crucifié et qu'il est ressuscité. Il y a même des historiens qui ne sont pas des chrétiens et qui ont attesté que le Seigneur est bel et bien mort, crucifié et il est ressuscité. Et encore, ce qui fait vraiment que Dieu reste Dieu, que le Père de notre Seigneur Jésus est Dieu, c'est que les prophètes ont annoncé la venue du Messie, comment il allait vivre. Ils ont annoncé quelle mort il allait partir. Ils ont annoncé même avec précision que sa tombe, en fait, c'est une tombe qui appartient à un riche. Et ça, toutes ces prophéties se sont réalisées à la lettre. Ça s'est réalisé à la lettre. Sa naissance, comment il allait venir dans ce monde, dans quelle ville il allait naître, dans quelles circonstances. Et quand on rassemble toutes ces choses, des centaines d'années avant même que Jésus ne puisse venir dans ce monde, cela montre que si tu suis le Seigneur Jésus, tu es sur la bonne voie. Et en plus, il te dit clairement que si tu viens à lui, que tu es sauvé. Il te dit que si tu l'acceptes, il va prendre soin de toi. Il va te donner le repos. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne savent même pas s'ils vont, après leur mort, où est-ce qu'ils iront. Est-ce qu'ils vont aller en enfer? Ils vont aller au paradis? Ils ne savent même pas. Il y en a qui disent oui, mais Dieu, Allah, va mesurer, va voir si ce que tu as fait et il va mettre ça sur la balance, si le mal que tu as fait va prendre le dessus sur le bien, là tu vas en enfer, mais si le bien que tu as fait prend le dessus sur le mal, là tu iras au paradis. Donc, finalement, ça vient, c'est une question de travail. Mais comment tu sais exactement que le bien que tu as fait est au-dessus du mal que tu as fait? Oh, tu ne sais pas, mais si il est souverain, c'est lui qui décide le jour où tu vas mourir. Donc, tu fais face à l'incertitude tous les jours, tu suis un Dieu qui ne te donne pas l'assurance. Tu ne sais pas si, après ta mort, tu es sauvé ou pas. Alors que le Seigneur Jésus te dit clairement, il te dit clairement, viens à moi. Il te dit qu'il te donne la vie. Que c'est lui-même l'auteur de la vie. Il est le seul chemin. Et il est la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. C'est pas ce qu'on entend. Oui, ta vérité, c'est ta vérité. Moi, ma vérité, c'est ma vérité. Non, il y a juste une seule vérité. Et il dit qu'il est ce chemin. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas à chercher. Oui, je ne sais pas trop. Je vais poser des actes. Les actes ne peuvent pas sauver quelqu'un. Que tu puisses donner ta vie, que tu puisses, je ne sais pas moi, te suicider pour une cause, que tu puisses faire, je ne sais pas moi, donner tout ton argent aux pauvres, ce n'est pas ça qui va te sauver. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et combien de péchés? Combien d'actes qui ne sont pas conformes à la voie de Dieu que tu as eu à commettre? Et ça se passe même en une journée. La culpabilité, la liste même de culpabilité peut s'allonger. Donc, imagine toute une vie où il faut attendre que Dieu puisse mettre ça sur une balance. Donc Paul nous dit dans notre texte de base, On va quand même le voir. Notre texte de base qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Paul nous dit clairement que c'est vraiment la base même de la foi chrétienne. Et c'est l'évangile, c'est le centre de l'évangile, la mort et la résurrection. Si le Seigneur est mort et qu'il n'est pas ressuscité, ça veut dire que tu suis un Dieu qui est mort, qui est incapable de vaincre même la mort. Donc ça, c'est vraiment, c'est fondamental. Dieu, dans son amour, a donné sa vie, mais il est revenu à la vie. Donc je lis, frères et sœurs, ça c'est dans la version de la Bible du Semeur. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, cet évangile, cette bonne nouvelle du salut, c'est la mort du Seigneur et sa résurrection. La mort pour prendre ta place, ma place. Et ensuite, il est revenu à la vie pour nous montrer que il a le pouvoir de donner sa vie et de ressusciter. De revenir à la vie. Il a dit clairement à ceux qui étaient dans le temple ou à ceux qui étaient à son auditoire, il leur a dit clairement, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et les Juifs étaient étonnés alors qu'il parlait de sa mort. Il parlait de sa mort, mais il est revenu à la vie. Il leur a montré clairement qu'il est le Messie. Donc, ils n'ont pas voulu accepter cette vie, ils n'ont pas voulu accepter le Messie, ils ont préféré plutôt suivre leur voie. Parce que ils ne voulaient pas s'humilier devant le Seigneur Jésus pour qu'il puisse avoir cette vie. Donc, c'est vraiment le fondement de ta foi. Quand tu sais bien que Dieu a donné son Fils unique pour toi, qu'est-ce que Dieu n'est pas prêt à faire pour que tu sois dans sa bonne grâce? Pour que tu sois dans sa bonne grâce. S'il allait donner même, s'il allait se sacrifier, s'il s'est sacrifié pour toi, pour ta vie, est-ce qu'il va te négliger? Est-ce qu'il va négliger les choses que tu vis en ce moment? Est-ce qu'il ne va pas s'occuper de toi? Donc, il faut que tu te poses des questions, même quand tu traverses des moments difficiles. Pose-toi cette question. Dieu m'a sauvé parce que il est mort à la croix pour moi. Et ce Dieu prend soin de moi. Et même quand tu veux, quand tu vas vers les autres pour les évangéliser, tu sais de quoi tu parles. Il y en a qui n'ont aucune assurance. Ils ne savent même pas comment leur vie se déroule. Ils ont tellement peur qu'ils vivent dans la peur. Ils savent même pas. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de ceci. Ils ont peur de cela. Parce que ils ne savent pas. Qu'est-ce qui va advenir après la mort? Qu'est-ce qui va advenir après la mort? Il y a un pasteur qui disait souvent que si tu suis quelqu'un, un Dieu qui est mort, tu vas finir comme ce Dieu-là. Mais si tu suis un Dieu qui est vivant, tu vas vivre. et ce n'est que normal. Donc beaucoup suivent des dieux qui sont restés dans le temple, des dieux qui sont morts. Voilà pourquoi ils n'ont pas l'assurance du salut. Mais l'apôtre Paul rappelle à l'église de Corinthe que le fondement de leur foi, c'est la mort et la résurrection. Sinon, tout ce qu'ils ont reçu, tout l'enseignement, ça ne sert à rien. Et je continue la lecture. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Ce que j'avais moi-même reçu, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Donc, imaginez que vous faites l'investigation. Vous avez 12 personnes qui ont marché avec le Seigneur. Surtout, il y a un qui s'est joint aux 12 après la mort du Seigneur. Mais ce sont les 12 témoins. Donc, le Seigneur a apparu à ce groupe de 12. Et en plus, la parole de Dieu relate qu'il y a plus de 500 personnes qui ont vu le Seigneur. Les disciples ont pu manger avec lui. Il les a enseignés pendant des jours et des jours. Et il est parti au ciel. Pendant 40 jours, il a enseigné ses disciples. Donc, si on fait une investigation, imaginez 500 témoins qui vont passer à la barre pour témoigner, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Plus de 500, bien sûr. J'ai vu le Seigneur, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Maintenant, qui croit? Quelqu'un qui est venu, par exemple, 600 ans après la mort de Christ et qui dit, non, il n'est pas mort, on l'a déguisé, c'est plutôt Judas que Dieu a pris pour déguiser, pour montrer que c'est le Seigneur qui a été crucifié, mais en réalité c'est Judas qui est mort. Est-ce que tu vas croire à ceux qui ont marché avec lui, ceux qui l'ont vu après sa mort, ceux qui ont assisté à sa mort, même s'ils étaient là apeurés, ils étaient là en train de se cacher, mais ils ont assisté à la mort de Christ. Jean, par exemple, il était là dans les premiers rangs avec Marie. Donc, est-ce que tu vas croire à une personne qui n'a jamais, 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 il sait même pas, il n'était même pas, c'est-à-dire, c'est pas le Seigneur est mort. Par exemple, 5 ans et puis lui il est venu. Non, c'est 600 ans plus tard. Est-ce que tu vas croire à celui qui n'a jamais été là et qui te dit qu'il n'est pas mort, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place, ou bien tu vas croire à ceux qui étaient des témoins, ceux qui l'ont vu après. Et même les historiens de l'époque, les historiens du premier siècle, ceux qui ne sont même pas des disciples de Jésus, qui ont attesté que le Seigneur était bel et bien exécuté et que le tombeau est resté vide. Donc, j'aimerais que tu sois encouragé par cette parole parce que il arrive des moments où tu doutes de la capacité, de la puissance du Dieu que tu sers. Tu es un peu ballotté. Il y a des moments où tes problèmes deviennent grands. Ça s'amplifie. C'est comme si tu mets une loupe et puis ça commence à s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Et du coup, tu doutes. Mais ton Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, est vivant. Et pour montrer vraiment que le Saint-Esprit que le Seigneur a promis est bel et bien parmi nous, son Esprit est avec nous. La parole de Dieu nous te dit clairement dans Romains. On va finir par là. Dans Romains 8, verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. J'aimerais souligner quelque chose ici. Là, on dit que c'est l'esprit, donc le Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le passage que nous avons lu dans Jean, le Seigneur a dit, je donne volontairement ma vie et je la reprends. Donc là, on voit bien Dieu travailler, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. C'est la personne de Dieu en un. On voit bien, d'un côté, le Seigneur dit, je donne ma vie. Je la reprends. Là, on dit, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc, son esprit qui a ressuscité, l'esprit de Jésus qui l'a ressuscité d'entre les morts, habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui te guide tous les jours, qui t'enseigne, qui te montre les choses cachées. Compte sur l'esprit de Dieu. Et ce qui est sûr, Dieu ne peut pas te décevoir. Donc, tu sers un Dieu qui est vivant. Que ta vie fleurisse, que ta vie continue à croître et ne doute pas de ce Dieu que tu sers. Il t'encourage tous les jours à aller de l'avant. Je te donne cela au nom de Jésus. Amen.